Bonsoir et bienvenue sur ce plateau de BFM TV 2012 avec ce soir deux invités. À 19h tout à l'heure, Eva Joly, Europe Écologie Les Verts, et à 18h, Nathalie Arthaud, candidate de lutte ouvrière. On la retrouve dans un instant après le journal de 18h qui vous est présenté par Lucie Nutin.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous.
Bonsoir Nathalie Arthaud.
Bonsoir.
Quand on va sur votre site de campagne, vous vous présentez de la façon suivante. Je suis communiste et je me présente à cette élection pour défendre les intérêts politiques du monde du travail. En fait, si j'ai bien compris, vous voulez chambouler, si vous y parveniez, les institutions de la France telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui.
Écoutez, c'est surtout que dans cette crise, depuis que la crise a démarré, de qui se soucie-t-on? Enfin, je parle de ceux qui dirigent le pays, qui sont au gouvernement. De qui se soucie-t-il? Des banquiers, des grands industriels, des affaires de la bourgeoisie. Et les travailleurs, eux, eh bien, ils sont mis dehors, ils sont mis à la porte, ils sont licenciés. J'inclus aussi les intérimaires. On leur impose une aggravation des conditions de travail. Ils sont sacrifiés. Le monde du travail est sacrifié sur l'autel des profits. Pas seulement de la crise, sur l'autel des profits.
Alors effectivement, dans votre programme, vous insistez beaucoup sur l'emploi, sur les licenciements, sur les entreprises. Oui. Et votre première proposition sur les licenciements, c'est tout simplement de les interdire. Bon, c'est une proposition qu'on a vue dans d'autres pays à certains moments, mais ça n'a jamais vraiment fonctionné.
Écoutez, moi je pense effectivement que le chômage, c'est le fléau. C'est le fléau aujourd'hui de la société pour les classes populaires. Mais il faut le combattre. Et comment peut-on le combattre? Eh bien déjà, en fermant le robinet. En fermant le robinet de qui fabrique les chômeurs. C'est-à-dire en interdisant effectivement les licenciements et les fermetures de cycles, les fermetures d'usines. Vous vous rendez compte? Depuis que cette crise a éclaté, depuis 3 ans, il y a eu 900 usines qui ont fermé, ça en fait une par jour. C'est simple, une par jour.
Et si on avait interdit les licenciements, entreprises auraient continué à fonctionner?
Vous savez, si on avait interdit les licenciements de Sodi Medical, qui est une petite entreprise, 55 salariés, ouvrières, dont personne ne parle, mais qui dépend quand même d'un grand groupe, Lohmann Rocher, qu'est-ce que ça aurait fait? Eh bien, ça aurait préservé la vie, l'existence, les conditions d'existence de ces 55 ouvrières, et ça aurait effectivement rogné un petit peu quelques profits de ce grand groupe. Voilà. Alors, et c'est comme ça pour la plupart des sites qui ont fermé, vous savez, ça aurait juste pris un petit peu aux actionnaires qui continuent de s'en mettre plein les poches.
Alors, je voudrais livrer à votre réflexion les déclarations du patron des ventes de Volkswagen, qui est une firme automobile qui fonctionne bien, qui vend beaucoup de voitures alors que d'autres sont en difficulté à l'heure actuelle. Et il a dit, voilà, nous devons ça à la recherche, au développement, mais aussi et surtout parce que la flexibilité du travail existe en Allemagne. Et nous, on n'a pas délocalisé.
Oui, enfin ça, ils sont les patrons, ils ont que ce mot-là à la bouche. Hein, la flexibilité du travail.
Ah là, ça marche. Hein.
C'est-à-dire la flexibilité des salaires. Ça marche peut-être pour eux. Moi, j'aimerais bien voir les sous-traitants, les ouvriers des sous-traitants, si ça marche très bien de leur point de vue à eux. Vous voyez, parce que moi, oui, d'accord pour la flexibilité. Mais la flexibilité des profits, la flexibilité des dividendes, vous comprenez les actionnaires. Écoutez, ils y sont pour rien dans la production de richesses, dans le travail au quotidien de ces entreprises. C'est pourtant eux à qui on garantit les dividendes. Donc moi je dis que s'il y a une flexibilité à avoir pour baisser les prix et pour être plus compétitif, comme le dit le MEDEF, eh bien qu'ils rabotent les marges bénéficiaires.
Les actionnaires, ils apportent des capitaux qui permettent d'acheter du matériel pour rénover, moderniser l'entreprise.
Oui, et alors? Et alors?
Ben c'est nécessaire, non?
Ils sont riches à millions. Et si on touche à un de leurs cheveux, vous croyez que ça va les mettre sur la paille? Pas du tout. Les travailleurs, qu'est-ce qu'ils font, eux, dans l'entreprise? Eux, ils apportent leur vie. Ils y passent leur vie au boulot. Et ils y laissent leur santé, bien souvent. Et c'est eux qui font la fortune des entreprises. Et c'est vrai sur des générations et des générations. Et moi, je trouve ça révoltant qu'après avoir passé 20 ans, 30 ans dans une entreprise, eh bien, on nous mette à la porte. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit trou d'air dans l'économie, parce qu'il y a une petite baisse des commandes, et parce que ces messieurs ne supportent pas de voir leurs dividendes baisser.
Une entreprise qui ne vend pas, elle ne sert plus à rien.
Mais vous savez, une entreprise qui ne vend pas à un petit moment, eh bien moi je dis qu'elle a l'obligation de garantir son emploi et son salaire aux travailleurs
avec
qui ont fait leur fortune. Eh bien avec les profits d'abord qu'elle continue de réaliser, parce que les profits, ils sont quand même bien, bel et bien là. Vous allez nous faire croire qu'il n'y a plus d'argent dans la société. Écoutez, encore cette année, le CAC 40 présente 73 milliards de bénéfices. Hein. Et quand bien même, je vous dirais, quand bien même les profits présents ne suffiraient pas, eh bien nous sommes pour aller au aussi chercher dans les profits passés et dans les fortunes qui sont accumulées. Parce qu'il n'y a pas de raison de laisser crever les travailleurs. Hein, parce que ils ont fait des mauvaises affaires, parce que l'économie capitaliste ne marche pas. Il n'y a pas de raison de condamner à la misère les travailleurs. Donc voilà, moi je suis bien consciente que ça.
Alors il faut fermer les frontières parce que les capitaux, vous savez que ça circule beaucoup dans le monde.
Voilà.
Alors où va-t-on chercher l'argent?
Le chantage de, ils vont partir.
Non, c'est pas le chantage, c'est une réalité.
Si on touche un petit peu à leur profit, ils vont partir. Alors écoutez, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se plier à cette loi, à ce pouvoir absolu là du capital. Hein, ils n'en ont jamais assez. Jamais assez. Et quand vous me parlez tout à l'heure, vous m'avez dit, l'industrie automobile française est en difficulté. Mais voyez même ça, elle est en difficulté. Bah, écoutez, PSA, ils pleurent.
Justement, j'avais une question à vous poser là-dessus.
Ils pleurent la bouche pleine.
Mais j'avais une question à vous poser là-dessus, puisque vous avez manifesté il y a peu de temps à Aulnay-sous-Bois, où les salariés de PSA redoutent que l'usine ferme, c'est l'usine où on fabrique actuellement la Citroën C3. Hein, on est d'accord. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
Eh bien, voilà, là, interdire PSA de fermer cette usine, évidemment. Voilà ce qu'il faut faire. Et c'est pas, vous savez, ils redoutent.
Oui, mais si les voitures ne se vendent pas.
Je tiens à souligner que les travailleurs redoutent. Ils ne redoutent pas. Enfin, c'est une fermeture qui est programmée en réalité. Et dont la programmation, d'ailleurs, était cachée aux salariés. Mmh. Hein, ça a été programmé il y a déjà plusieurs années de cela. Ça a été caché aux salariés.
Oui, mais alors, pour empêcher la fermeture, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, écoutez, on fait une loi. Une loi qui impose à PSA de garder tous ces salariés, tous ceux qui y ont fait leur fortune. Vous savez, en 2011, PSA a battu un record de vente et a fait plus de 1 milliard de bénéfices. Eh bien, c'est grâce à la sueur et au travail, y compris des ouvriers d'Aulnay-sous-Bois. Hein, donc, il faut préserver leur emploi. PSA aura peut-être pas une C3 à faire fabriquer, mais il aura d'autres voitures. Nous disons qu'il faut que le patronat réorganise son activité et qu'il répartisse le travail qu'il y a à faire entre les différents sites. Vous comprenez en même temps.
Mais vous dites que dans certains cas, l'État n'a qu'à réquisitionner les entreprises et les remettre aux salariés. Est-ce que ça serait le cas, par exemple, pour CSA?
Je vais y venir. Mais voyez, pour PSA, en même temps qu'il menace effectivement de mettre 3000 ouvriers, mais plus en réalité, parce que si on compte les sous-traitants, les entreprises extérieures, ça fait bien plus que ça, eh bien, en même temps, il surcharge de travail d'autres usines, Poissy, où ils l'imposent des heures supplémentaires. Donc nous disons qu'il faut lui imposer de répartir le travail sur chaque site, sur chaque travailleur, et qu'il garantisse évidemment un salaire à 100%. Alors vous m'avez effectivement parlé de ce chantage, hein, que les capitaux et les patrons pourraient partir. Eh bien, nous sommes effectivement, s'ils veulent partir, hein, s'ils pensent qu'ils n'ont plus d'affaires à faire ici, bah, qu'ils partent. Mais on garde les usines, on garde les moyens de production et on les refait fonctionner. Oui, on réquisitionne et on exproprie. On exproprie. Ils trouvent que c'est pas rentable, ils trouvent qu'ils n'ont plus rien à faire ici. Eh bien, nous, on pense qu'il y a beaucoup de choses à produire d'utiles pour la société.
Alors, sur votre site, on cite d'ailleurs nommément un certain nombre de patrons hein, que vous estimez devoir viser. Bernard Arnault, c'est LVMH, Vincent Bolloré, Serge Dassault, Lagardère, Pinault, Peugeot. Tout cela, il faut les exproprier?
Vous savez, je pense que la crise, elle a montré quand même qu'il y avait des irresponsables qui étaient finalement à la direction de cette économie. Hein, des irresponsables qui, effectivement, ne juraient que par l'argent, que par le profit, et que ils étaient aveuglés. Alors, y compris, ça a conduit à une spéculation qui n'avait plus de limites. Donc, tout le monde l'a dit.
Hein. Mais là, vous citez leur nom.
Donc, moi, expropriation, effectivement, a commencé par
de tout cela
par les banques, parce qu'ils sont irresponsables, et par, effectivement, cette classe capitaliste
de tout cela
qui contrôle le CAC 40.
De tout cela qui sont cités sur le site?
Oui, de tout cela. Voilà. C'est, si vous voulez...
Ça en fait beaucoup, quand même.
Et même plus, même peut-être plus, si vous voulez. Moi, je pense que l'expropriation des banques, hein, c'est-à-dire, en fait, la nationalisation, mais sans indemnité ni rachat des banques, et qu'on fusionne les banques en un seul établissement de crédit, et qu'on le fasse fonctionner sous le contrôle des travailleurs eux-mêmes, des employés de banque, et sous le contrôle de la population, des usagers, dans un comité, finalement, de direction démocratique, celui-ci, ça serait vraiment une nécessité. Et je pense qu'il faudrait faire de même avec les grands groupes du CAC 40. Pourquoi je parle des groupes du CAC 40? Parce que je pense que ce sont eux qui font l'économie. Ils dominent toute l'économie. Ils imposent leurs lois, y compris sur les plus petits, sur toutes ces PME, hein, où on nous dit qu'elles ont beaucoup de difficultés. Mais c'est eux qui les mettent en difficulté.
Est-ce que tous les patrons sont des ennemis pour vous?
Mais c'est pas une question. C'est pas un problème personnel.
Non, parce qu'on voit les patrons rapaces.
J'ai
les
pas
patrons
de problème personnel
nuisibles
avec Bernard Arnault.
Non, mais patrons rapaces et nuisibles.
Écoutez, vous comprenez quand... prenez le groupe Hersant, par exemple. Le groupe Hersant, qui est une famille. Hein, une famille qui coule des jours heureux en Suisse avec sa fortune, qui est mise à l'abri du fisc. Ce groupe a fermé, a liquidé le journal Paru Vendu. Il a mis sur le carreau 1650 salariés et tous ceux qui fabriquaient aussi le journal du groupe Hebdoprint Comareg. Eh bien, oui, c'est sa rapacité, c'est le produit de sa rapacité. Ils n'ont pas de limite. Vous comprenez comment expliquer qu'effectivement, Bernard Arnault a sauvé ses 24 milliards, 26 milliards dans cette crise. Et qu'en même temps, les salariés qui dépendaient de ces groupes, hein, et LVMH, il y a toute une ramification, eh bien, c'est eux qui ont payé. C'est eux qui ont payé la garantie et le fait que sa fortune soit effectivement assurée.
Bien, c'est la fin de cette première séquence. On va retrouver dans un instant Sylvie-Pierre Brossolette du Point qui va vous interroger sur l'affaire de Toulouse et de Montauban. À tout de suite. Nathalie Arthaud, nous avons été rejoints par Sylvie-Pierre Brossolette du Point. C'est à vous, Sylvie.
Bonsoir. Alors, nous allons revenir, comme l'a dit Olivier, sur les drames de Montauban et de Toulouse. Je voulais vous demander si vous pensiez qu'il y avait pu avoir des failles dans notre système de sécurité. Des experts, des politiques, depuis quelques jours, mettent en cause le rôle de la DCRI en disant que pendant la période avant le drame, puis après le drame, on aurait pu faire mieux, éviter ces massacres. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des failles ?
Écoutez, honnêtement, je ne sais pas et je ne vais pas m'ériger en spécialiste ou en expert. On les a vus sur vos plateaux pendant deux jours, en continu quasiment, et y compris ils n'étaient pas d'accord les uns avec les autres. Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Ça, c'est certain. Donc, je ne vais pas là-dessus tirer plus de conclusions que les autres.
Et vous pensez comme M. Squarcini ou M. Pechnard que la DCRI, c'est parfait, on ne pouvait pas faire mieux et que ça a été impeccable?
Non, mais écoutez, je ne sais pas. Oui. Ce que je pense, c'est qu'il faudra sans doute avoir aussi encore un peu de recul pour tout connaître de comment les événements se sont déroulés et pour cette fois apporter un jugement, je pense, plus juste.
Et qu'est-ce que vous pensez de la proposition du chef de l'État d'interdire la consultation des sites qui prônent l'islamisme, le terrorisme sur Internet? Est-ce que c'est un nouveau dispositif qui vous semble aller dans le bon sens?
Là, je crois qu'on est dans la posture politique. Voilà. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy là, essaye de mettre en place un certain nombre de mesures de circonstances. Il doit apparaître comme celui qui maîtrise tout, qui va empêcher de nouveaux drames de se produire. C'est de l'instrumentalisation politique, purement et simplement. Parce que la réalité, c'est qu'il ne sait absolument pas si c'est concrètement possible, comment cela peut se faire. Pour l'instant, effectivement, il n'y a pas de délit quand on consulte et quand on lit un certain nombre de choses. Et par ailleurs, beaucoup de magistrats le disent eux-mêmes, c'est qu'en fait, on a déjà dans notre arsenal répressif toute une série de lois qui punit évidemment l'appel au meurtre. Donc voilà.
Vous auriez à le voter, vous voteriez non ?
Écoutez, je suis même pas sûre que d'ailleurs lui-même le présente en réalité, parce que dès qu'ils vont chercher un petit peu à voir la faisabilité, ils vont se rendre compte que ça ne marche pas. Donc tout ça, et je crois que je le voterai pas, non, parce que effectivement, on sait que ça pose toute une série de problèmes en réalité sur les libertés, sur les libertés sur Internet. Et même si ça reste flou, encore une fois, ça reste flou, y compris de son point de vue. Sa proposition, non, je pense qu'a priori je le voterai pas.
Dans la gestion de ce drame, est-ce que vous pensez que certains candidats se sont prêtés à une récupération politique?
Je crois qu'il y a eu bien sûr de l'instrumentalisation politique dès le départ.
À part de qui?
Y compris dans l'idée de la suspension. Vous voyez, de la suspension de la campagne présidentielle. Parce que tout ça, c'était effectivement choisi, c'était décidé, c'était réfléchi, c'était une stratégie de campagne en réalité.
Mais
une stratégie
de qui, campagne. Mettez tout le monde dans le même sac.
Écoutez, Nicolas Sarkozy, pour lui, c'était facile. Il n'y avait pas de suspension de campagne. Il a juste enfilé son costume de président.
Il a été bien d'ailleurs ou pas?
A continué.
Il a été bien?
Je pense qu'il a joué son rôle. Voilà, je pense que c'est aussi la place du président de la République. C'était le minimum à faire et il l'a fait, voilà. Mais je dirais que c'est pour ça qu'il est payé aussi, le président de la République, d'un certain côté.
Est-ce que vous voyez d'autres mesures à prendre pour éviter ces drames à l'avenir, autre que ce qu'a proposé le président? Est-ce que vous voyez d'autres dispositions?
Je crois que Et c'est pour ça que c'est difficile d'en tirer des grandes conclusions politiques. Hein. Je crois que c'est aussi l'acte d'un psychopathe qui s'est saisi, certes, du fondamentalisme religieux pour donner un sens finalement à sa folie meurtrière, mais c'est avant tout un psychopathe, de la même façon que Anders Breivik en Norvège, quand il a assassiné 77 jeunes gens, était, je pense, un psychopathe. Alors lui, il s'était saisi hein, de l'idéologie néo-nazie et du fondamentalisme chrétien, hein, lui. Bon, mais on n'en avait pas pour autant conclu qu'il y avait une recrudescence du danger néo-nazi en Europe, ou qu'il y avait une recrudescence et qu'il fallait mettre tout en place une série de mesures. On n'en avait pas conclu qu'on devait vivre désormais en camp retranché.
Non, mais vous avez parlé de terreau sur lequel c'était
placé cet acte. Par ailleurs, effectivement, quand on m'a dit « est-ce que vous pensez qu'il y a un danger terroriste ?» oui, je pense que le danger terroriste existe toujours.
Hein, il a été sous-estimé.
On ne peut pas. Ça, je pense que, en l'occurrence, c'est pas cet événement et l'acte de ce tueur isolé qui relève effectivement là, je pense, y compris plus de la psychiatrie que d'autres choses. Je ne pense que c'est pas de ça. Qu'on peut tirer justement de grandes conclusions. C'est bien ce que je vous disais. Maintenant, je suis tout à fait consciente que le monde, et il faut que tout le monde en soit conscient, le monde est quand même à feu et à sang. Il y a des régions entières qui sont dévastées quand même par les guerres.
Justement, vous dites qu'on fait beaucoup de bruit, à juste titre, sur ces drames de Montauban et de Toulouse, mais qu'il y a énormément d'enfants morts en Palestine, qu'il y en a d'autres en Afghanistan, qu'il y a des morts un peu partout.
Je n'ai jamais fait une balance, comme vous avez
l'air. Sur votre site, il est indiqué, et les enfants qui meurent sur le site de la lutte ouvrière.
C'est aujourd'hui.
Non, attendez. Je n'ai jamais fait une balance, et je pense que les morts, on ne les pèse pas comme ça. Hein. Donc là, ça, ce n'est absolument pas mes mots, et ce n'est pas moi. Ce que je dis, c'est que le monde, il est à feu et à sang. Il y a des guerres, il y a des inégalités, des injustices, il y a des pillages aujourd'hui. Il y a l'impérialisme, une présence impérialiste dans les quatre coins du monde qui sème la dévastation. Et ça, évidemment, ça alimente quoi ? Ça alimente les frustrations, ça alimente les haines, ça alimente les délires, y compris criminels de certains. Voilà, les délires de vengeance, bien sûr que ça alimente cela. Et on ne peut pas imaginer un monde où finalement, eh bien voilà, il y aura des régions comme cela, où c'est la descente aux enfers. Je pense à l'Afghanistan, mais je pense aussi à la guerre permanente, oui, qui y a en Israël et en Palestine. C'est une guerre permanente. Donc, avec ce genre de conflit, on ne peut pas imaginer eh bien, être complètement en dehors de tout ça, d'autant plus quand on est y compris responsable. Hein. Je rappelle que la France fait la guerre en Afghanistan, qu'elle a bombardé la Libye, qu'elle a une présence dans tous les pays d'Afrique avec ses bases militaires. Donc voilà.
Mais vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ceux qui disent il y a deux poids deux mesures, quand il y a des enfants juifs qui sont massacrés, ça fait la une de tous les journaux, et des enfants palestiniens ou ailleurs qui sont tués, personne ne s'en émeut tellement.
Non, mais comme
des responsables même européens l'ont dit.
Là, vous me ferez pas. Oui, mais moi, vous me ferez pas faire de balance entre les morts, hein, et de dire non. C'est.
Mais est-ce qu'on en fait assez pour les autres ?
Mais le problème, c'est ça, c'est qu'il faut être conscient, y compris de la responsabilité de l'impérialisme français dans ce qui se passe dans le monde, hein, et on n'est pas coupé de cela, et que, eh bien, ça nous revienne dans la figure sous différentes versions. Hein, je ne parle pas que de cet acte-là, mais ça peut hein, nous revenir dans la figure, évidemment. Eh bien, il faut le savoir, il faut en être conscient. Moi, vous voyez, si y compris je combats cette société, si je combats ce système capitaliste, ce système de domination hein, qu'il engendre, c'est justement pour ça. C'est parce qu'on ne peut pas à la fois vivre une société violente où on sème la barbarie aux quatre coins du monde et se dire bien que cette barbarie, elle ne nous rattrapera pas. Donc moi, je suis pour combattre, effectivement, toute cette société. Je pense qu'il faudrait la changer de fond en comble, que ça ne soit plus que l'argent. Hein, voilà, c'est une société qui est basée sur l'argent. Il n'y a que l'argent.
Et pour vous, il faut se retirer d'Afghanistan, évidemment, le plus vite possible.
Oui, il faut se retirer d'Afghanistan.
Et... Même si c'est les talibans derrière qui font semer la terreur.
Mais vous savez, l'armée américaine, les Américains, la diplomatie américaine et française, sans doute, sont en train de négocier avec les talibans pour leur remettre les clés du pays. Alors, vous voyez où ça a mené, les 11 années de guerre ? Ça a mené à ce désastre-là, parce que en réalité, l'Afghanistan, eh bien, il s'est enfoncé dans la dévastation la plus totale. Alors, vous voyez, c'est l'échec vraiment pas tant, là, en l'occurrence, hein, de ces guerres. Et évidemment, il faut partir de la même façon que nous sommes pour que les bases militaires françaises, soient retirées de toutes les anciennes possessions coloniales. Parce qu'on sait qu'elles sont là pour imposer des intérêts pour les capitalistes français et ils vont pas dans le sens des populations sur place.
Merci. Sylvie Bure-Brossolette. On va passer à la séquence suivante. Nathalie Arthaud, qui êtes-vous ? Voilà, qui êtes-vous ? On va parler politique. Hein. Qui êtes-vous sur le plan politique ? Farida Setiti vient de nous rejoindre. C'est à vous, Farida.
Bonsoir Madame Arthaud.
Bonsoir.
Alors à vous entendre, on se demande pourquoi vous vous présentez à la présidentielle. Alors cette question, on se la pose quand on vous écoute. Regardez.
Je pense que c'est pas les changements de gouvernement qui changent la vie pour les travailleurs et pour les exploités. Donc les élections, elles ne servent pas à changer la société, c'est pas vrai.
Alors pourquoi vous vous présentez Madame Arthaud ?
Bien oui, les élections, ça ne permettra pas, si vous voulez, de lutter contre les licenciements. Ça ne permettra pas que nous obtenions de meilleurs salaires. Ça ne mettra pas un terme, eh bien, à ce diktat hein, aujourd'hui des capitalistes sur la société. Ça, c'est pas vrai. Donc, ça n'a jamais changé le sort des travailleurs, les élections. Par contre, les élections, ça permet de s'exprimer. Ça permet de dire tout ce qu'on pense. Ça permet aussi de dire sa colère. Et ça permet de défendre un programme pour les travailleurs. Et moi, dans cette élection, je veux défendre un programme. Effectivement, j'ai mon programme à défendre pour les travailleurs. Certes, c'est un programme de lutte, parce que je l'explique, hein, les objectifs et les revendications que je mets en avant, on ne pourra les obtenir qu'en réalité au travers de mobilisations puissantes et de luttes. Mais c'est un programme quand même.
Alors, est-ce que ce n'est pas ça qui explique que dans les sondages, vous êtes à un niveau bas, hein, entre 0,5 et 1%, suivant les instituts, parce que on voit à l'inverse Jean-Luc Mélenchon, qui lui est à 12, 13, 14 points dans les sondages, parce que lui dit au contraire qu'on peut changer les choses avec les élections, et donc il offre un espoir à ceux qui le suivent. Et vous avez l'air de dire, bah écoutez, tout ça, ça sert pas à grand-chose, ça sert même à rien.
Oui, c'est un marchand d'espoir, oui, je dirais marchand d'illusion aussi, d'un certain côté, oui.
Pourquoi comme... d'illusion ? Parce qu'il a un programme quand même
radical. Mitterrand aussi avait suscité beaucoup d'espoir, justement, dans la classe ouvrière. Mitterrand avec des grandes envolées aussi, hein, lyriques contre le capitalisme. Mitterrand qui disait qu'il allait changer la vie. Hein. Ça, c'est Mitterrand, voilà, il allait changer la vie des travailleurs. Il fallait une rupture avec le capitalisme, ça, c'était Mitterrand. Et effectivement, il a suscité beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes dans la classe ouvrière, même dans le Parti communiste, hein, qui y a cru aussi. Et finalement, au gouvernement, eh bien, ce gouvernement a trahi les intérêts des travailleurs.
Mais
et je crois qu'il y a beaucoup de travailleurs...
Vous lui mettez la pancarte de bourgeois réactionnaire au-dessus de la tête.
Et je crois que beaucoup de travailleurs l'ont encore en mémoire et l'ont encore sur le cœur et ont tiré les leçons de cela.
Quand même, hein.
Et ont tiré les leçons de cela. Alors, bon, bah là, il suscite un enthousiasme et effectivement, beaucoup se raccrochent et ont envie, y compris au travers de Mélenchon, de dire leur méfiance vis-à-vis de Hollande. Hein. Je crois que ce qui se passe avec Jean-Luc Mélenchon, ça exprime à la fois le rejet massif de Sarkozy, et en même temps le désir de beaucoup de dire à Hollande, eh bien on est méfiant. Mais au bout du compte, eh bien voter Mélenchon c'est une autre façon de voter pour Hollande, parce que ils vont dans le même sens, ils veulent construire ce fameux gouvernement de gauche, hein, une
mais
union.
Madame Arthaud, mais alors pour faire votre révolution, comme vous dites, vous refusez même l'alliance avec le NPA, avec Monsieur Poutou. Alors comment comptez-vous, comme vous dites, dégager Nicolas Sarkozy toute seule ?
Attendez, d'abord, moi je ne dis pas dégager Nicolas Sarkozy
c'est ce que
toute
vous
seule.
Avez...
Non. D'ailleurs, vous savez, je crois que l'objectif de l'élection n'est pas seulement celui-là, justement. C'est pas seulement, effectivement, de dégager Sarkozy. C'est aussi que les travailleurs soient conscients de ce qui les attend. Et ce qui les attend, que ce soit Hollande ou un autre au gouvernement, c'est la crise. C'est cette crise qui va continuer. Les patrons vont-ils s'arrêter de fermer des usines ? Vont-ils s'arrêter de développer multiplier ces petits boulots mal payés ? Non. Donc, face à cela, il faut que les travailleurs sachent à quoi s'en tenir et qu'ils vont devoir effectivement se battre par eux-mêmes. Alors maintenant, vous me dites, la lutte, la révolution, on va le faire tout seul, mais bien sûr que non. Mais vous savez, c'est pas parce que...
Mais vous ne voulez pas d'alliance.
Mais il ne faut pas tout confondre. Vous comprenez, on peut être à la fois des millions dans la rue, unis, sur les retraites, nous y étions, et nous sommes de toutes les luttes, et avec bien d'autres militants, toujours. L'union dans le combat pour les luttes, on est toujours pour. Mais être ensemble, se battre ensemble pour un but commun, ça ne veut pas dire qu'on a la même politique sur tout.
Quelle différence,
et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des discussions. Vous savez, quand il y a des grèves et des manifestations, il y en a beaucoup des discussions.
Mais quelle
dans les
différence
assemblées
avec
générales,
Philippe Poutou,
on n'arrête pas de
qui
discuter.
Qui est trotskiste également. Quelle différence avec Poutou?
Non, attention, le NPA ne se dit plus trotskiste. Le NPA, justement, il a voulu rassembler au-delà. Il ne veut plus se revendiquer de cette perspective communiste révolutionnaire. Nous disons, oui, c'est ça. C'est bien cette perspective-là. Nous militons pour une société sans exploitation, sans classe sociale. Nous sommes communistes, pas le NPA. Et en même temps, il y a des choses qu'ils diront comme nous, le NPA. Mais on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas chacun faire entendre, y compris nos différences, y compris notre identité. Mais pourquoi êtes-vous pour le parti unique? Pourquoi faudrait-il forcément un parti unique à l'extrême gauche? Pourquoi?
Bon.
Il n'y a pas de raison.
Très bien.
Tout le monde doit pouvoir faire entendre toute sa politique, ses différences, et voilà, il y en a.
Alors, vous avez eu quelqu'un qui vous a précédé, qui a marqué les Français, qui est Arlette Laguiller, et dès 2008, il a été décidé que c'est vous qui prendriez la succession, et vous êtes devenu réellement la porte-parole de Lutte ouvrière en 2010, si je ne m'abuse.
En décembre 2008.
Décembre 2008, eh ben oui, encore plus tôt. Alors, qu'est-ce qui fait que finalement, maintenant, vous n'y arrivez pas? Est-ce que c'est la personnalité? Arlette Laguiller avait plus de charisme que vous, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, elle était plus connue que vous. Ou est-ce que ce sont vos idées qui ne fonctionnent plus?
Aujourd'hui, il faut dire, j'ajoute, que vous êtes crédité de 0,5% d'intention de vote.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Bon, bah écoutez, mais vous savez, tout ça, ça ne devrait quand même pas vous étonner, hein, parce que effectivement, quand moi je suis sur ce plateau à dire que les travailleurs, eh ben, ils vont devoir se défendre par eux-mêmes, ils vont devoir s'organiser, se mobiliser, parce que il y a des choses à aller arracher, parce que il y a de l'argent dans la société qu'on doit revendiquer notre dû. Vous comprenez bien que je suis complètement à contre-courant. Je suis à contre-courant, alors que du matin jusqu'au soir, sur tous les plateaux et tous les autres candidats nous expliquent que c'est la crise, qu'il y a plus d'argent, qu'il faut faire des sacrifices, qu'il faut accepter, hein, de serrer la ceinture, qu'il y a plus d'argent pour les retraites, etc. Donc moi je suis, oui, à contre-courant. N'empêche que ce que je vois, c'est que la colère, elle s'accumule dans la société. Parce que les gens qui sont mis dehors, qui sont licenciés, je peux vous dire que ils le ressentent comme une injustice, et que les idées que je défends, y compris elles les touchent.
Mais justement, je vais vous faire écouter un montage entre vous et Madame Laguiller. Elle, c'était en 1974, vous en 2012. On écoute.
Vous, les révolutionnaires, vous n'avez pas de programme. Vous voulez tout détruire et vous n'avez rien à proposer. Voilà ce que disent de nous nos adversaires, qu'ils soient de droite ou de gauche.
Mais ce n'est pas la crise qui fait que le grand patronat s'en sort avec tous ses profits et que ce sont les travailleurs qui payent. Non, ça c'est le résultat de la lutte de classe.
Leur programme, c'est de dire aux travailleurs et aux classes laborieuses, travaillez et serrez-vous la ceinture, et à la bourgeoisie, enrichissez-vous.
Confrontés à cette crise, les capitalistes compensent les pertes en aggravant l'exploitation.
Mais les grands qui nous gouvernent, les représentants des industriels, des trusts et des banquiers, ne se contentent pas de tromper le peuple. Leur pouvoir repose sur des certitudes beaucoup plus matérielles. Pour faire appliquer la loi, leur loi, ils se sont donné les moyens nécessaires.
Et tout ça pourquoi? Pour que les dividendes des actionnaires soient préservés.
Madame Artaud, près de 40 ans, c'est par ces deux discours. Vous n'arrêtez pas de vous répéter alors que le monde change. Vous, chez vous, rien ne bouge.
Écoutez, demandez à ceux qui gouvernent depuis 40 ans s'ils ont réussi à combattre ce fléau qui est le chômage, ce chômage de masse qui est pas nouveau, hein, mais qui ne fait que s'aggraver. Demandez à ceux qui gouvernent s'ils ont réussi à faire en sorte que les travailleurs qui font tout tourner dans cette société aient une vie digne. Demandez à ceux qui ont gouverné. Nous n'avons pas gouverné. Mais ce que je peux vous dire, vous garantir que c'est pendant ces 40 ans, eh bien, on a milité, on a lutté. Et tout ce que les travailleurs, y compris dans les entreprises, ont réussi à sauvegarder, à conserver, et même parfois à arracher, eh bien, c'est venu de leur lutte, dans lesquelles nous étions. Nous avons été les militants, effectivement, de tout cela. Et je crois que si nous avons été utiles.
Dernière question, Madame Artaud. Alors, est-ce qu'au deuxième tour, vous allez appeler à voter pour Monsieur Hollande?
Alors ça, je me déciderai. Dans notre tradition, le soir du premier tour, le soir du premier tour en fonction de la situation politique du premier tour. Parce que ce que je veux expliquer dans cette campagne, c'est que justement tout le monde aura oublié ces élections dans 3, 4, 5 mois, quand la crise elle se sera aggravée et quand on va voir des chômeurs se rajouter encore aux chômeurs et quand on va voir qu'on va nous imposer des baisses de salaire, quand on va voir la situation qu'il y a en Grèce, on aura tout oublié. Et le problème, c'est bel et bien ça, c'est que dans cette crise, il faut que les travailleurs aient un programme de lutte, ne se laissent pas faire, disent nous, on a des choses à sauver, c'est effectivement nos salaires, c'est nos pensions de retraite et il ne faut pas lâcher là-dessus.
Alors finalement, je vais en rajouter une quand même. Est-ce qu'au final, vous n'avez pas envie que ce soit plutôt Nicolas Sarkozy qui remporte la victoire?
Mais pourquoi dites-vous ça?
Parce que c'est plus facile de battre de vous battre contre la droite que contre votre propre camp,
contre
socialistes.
Attendez, mais moi je dirais, mais bon débarras, hein. Sarkozy, il a gouverné pour les plus riches. Écoutez, c'était une politique, mais même cynique, hein, de voir que dans le même temps où il imposait des sacrifices sur la santé, sur l'éducation, il n'y avait jamais assez de milliards, hein, enfin, il n'y avait jamais trop de milliards pour les banquiers et pour les plus riches. Donc cette politique-là, évidemment, je la condamne. Mais ce que je tiens à dire, c'est que justement, y compris ce qui se passe, ce rouleau compresseur qui fait reculer notre vie de tous les jours, il est au-delà même de Sarkozy. C'est en réalité la bourgeoisie aussi qu'il faut combattre. Et donc, il faut que les travailleurs aient un programme aussi pour cela.
Fin de cette séquence. Merci Farida, Nathalie Arthaud. Nous passons à la dernière séquence, l'after RMC, avec Christophe Jakubicine. Christophe, c'est un... C'est à vous, Christophe.
Bonsoir, Nathalie Arthaud. Bonsoir, Olivier. Bonsoir. Tout à l'heure, justement, Olivier essayait de faire un petit peu un contre-cours d'économie en expliquant que quand même le capitalisme, ça servait à accumuler du capital, à investir dans des machines, dans des usines pour justement donner du travail aux gens. Et voici votre réponse.
Ils sont riches à millions. Et si on touche à un de leurs cheveux, vous croyez que ça va les mettre sur la paille? Pas du tout. Les travailleurs, qu'est-ce qu'ils font, eux, dans l'entreprise? Eux, ils apportent leur vie. Ils y passent leur vie au boulot. Et ils y laissent leur santé, bien souvent. Et c'est eux qui font la fortune des entreprises. Et c'est vrai sur des générations et des générations. Et moi, je trouve ça révoltant.
Alors, je regardais votre biographie et je me suis rappelé, je suis souvenu en la lisant que vous étiez professeur d'économie à Aubervilliers. Est-ce que c'est ça que vous leur racontez à vos élèves, que vous leur faites un cours d'économie sur le 19e, sur le capitalisme, sur la société par action? Est-ce que c'est ça que vous leur dites?
Écoutez, je fais pas de cours sur ces thèmes-là.
Sur quoi vous le faites?
En réalité, là, je fais plus des cours d'informatique et de communication, mais
d'accord.
De toute façon, moi, au travail, je fais mon travail et je respecte les programmes. Et je dois même vous dire que dans le programme d'économie-gestion, il n'y a même pas de chapitre sur la crise. Alors, vous voyez, même pas de chapitre sur la crise. Et ben moi, je trouve ça scandaleux.
Mais ça fait pas un dédoublement de personnalité quand même d'un côté le discours
mais
politique.
Mais exactement
et puis
comme vous, Monsieur Mazerolle, quand vous faites votre travail de journaliste, hein, parce que vous avez des idées, vous êtes peut-être vous êtes peut-être affilié à un parti. Allez, et vous devez rester neutre et objectif. Et bien vous y arrivez parfaitement. Et bien écoutez, moi aussi, quand je travaille.
J'ai vu que même les élèves de CM2 aujourd'hui, leur programme d'économie, c'était justement le capitalisme, la répartition au 19e entre la bourgeoisie, comme vous l'appelez, et les salariés. Est-ce que c'est quand même compliqué de quand on a un point de vue aussi tranché que le vôtre, vous avez le droit, hein, mais de faire ensuite de l'économie devant des élèves de manière différente, peut-être?
Non, ce n'est pas compliqué, parce que vous savez, y compris le métier d'enseignant, c'est aussi de développer la réflexion. Esprit critique, c'est aussi de développer la capacité de débattre, d'argumenter, c'est aussi apporter tout ce recul-là, et c'est donner aussi aux élèves envie de réfléchir, de comprendre, d'aller plus loin. Je peux vous garantir que mes élèves, ils sont curieux de mon engagement, de mes idées, ils savent à quoi s'en tenir, ils connaissent mes convictions, ils ont aussi leurs idées, et je crois qu'ils ont envie de se forger leurs propres idées, ils réfléchissent, voilà, c'est des jeunes adultes je pense que, y compris ce qui se passe dans la société, vous voyez, ce fléau du chômage, ce ravage, hein, de la misère, eh bien, ce qui se passe dans la société, les influence bien plus que tous mes discours à moi.
Mais le mode d'organisation de l'économie, sans faire de la philosophie politique ce soir, il y a quand même eu des régimes qui, pendant des décennies, ce sont effectivement des régimes qui se sont appropriés les moyens de production pour les mettre, disait-il, au service des travailleurs. Or, ça n'a pas fonctionné, d'abord parce que il n'y avait pas suffisamment de motivation pour produire. Comment, dans votre système communiste, puisque vous revendiquez du communisme encore aujourd'hui, vous faites en sorte qu'il y ait du travail, de la production, de la consommation pour tout le monde?
Alors, c'est justement, c'est exactement l'inverse. C'est facile pour moi. Il suffit que je prenne l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est
ce qui a été, c'est ce qui a été fait en Union soviétique. Mais, on avait fait l'inverse du système capitaliste. Mais, on a mis les moyens de production en propriété du gouvernement, du système politique au service des travailleurs.
Vous savez,
ça n'a pas fonctionné.
Aujourd'hui, ces moyens de production, les grands moyens de production, ils sont effectivement dans les mains d'une minorité de grands capitalistes. Et qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce qu'ils en font? Dites-moi. Est-ce qu'ils développent la production? Est-ce qu'ils développent les investissements?
Mais c'est pas ma question.
Qu'est-ce qu'en ont fait
les régimes communistes qui se sont appropriés ces moyens de production?
Donc, ils ne le font pas. Donc moi, effectivement, quand je vois qu'ils ne font pas, qu'ils sont défaillants, ils sont y compris défaillants à construire le 1 million de logements qui manque. Ils sont défaillants parce que regardez cette crise dans laquelle ils nous ont amenés. Ils ont tellement de milliards, qu'est-ce qu'ils font? Ils le spéculent. Alors moi je dis que leur défaillance, effectivement, elle montre qu'ils sont irresponsables, qu'il faut s'en débarrasser. Moi je suis pour exproprier cette classe capitaliste et que ces moyens de production, oui, on les gère en commun, collectivement.
Et pourquoi ça marcherait aujourd'hui alors que ça n'a pas marché il y a 50 ans en Union soviétique?
Ça marcherait bien mieux aujourd'hui parce que d'abord en Union soviétique, la seule expérience qui a été tentée, elle a été tentée dans un pays qui était arriéré économiquement, sous-développé par plein d'aspects. La révolution russe qui a éclaté en 1917, elle s'est faite eh bien au milieu d'une guerre. Elle s'est fait et ça a été finalement un peuple de paysans et d'ouvriers.
Il y a Cuba, il y a l'Albanie.
Non, pour nous, il y a eu une seule véritable expérience où y compris les travailleurs. Quelques années ont essayé de construire leur propre pouvoir et leur propre économie. Ça a duré quelques années. Ensuite, effectivement,
parce
la dictature
la Chine
s'est installée.
Un système communiste.
On a toujours. Mais évidemment que non. Mais attendez, vous n'allez pas regarder toutes les étiquettes que les dictateurs se mettent sur le front pour les croire. C'est le capitalisme le plus sauvage en Chine, y compris aujourd'hui.
Alors, pour reprendre ce que vous dit Christophe, comparons l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest.
Attendez, non, mais justement, je termine quand même là-dessus parce que vous me dites bon, ça n'a pas marché. Écoutez, ils ont les révolutionnaires, là, c'est les ouvriers et les paysans qui sont révoltés d'abord et avant tout pour mettre fin à la Première Guerre
justement,
mondiale.
Justement, dans le même pays, Allemagne de l'Ouest.
Ils sont montés à l'assaut du ciel d'un certain côté.
Même niveau, il y en a un qui a réussi, l'autre qui s'est effondré.
Alors, moi je suis convaincue qu'aujourd'hui, d'abord, vous me dites Allemagne de l'Est, etc., et y compris l'Union soviétique, il y a eu toute une industrialisation qui a été faite, et ça vous pouvez pas la nier. Et il y avait bien des choses qui n'allaient pas, bien des défaillances, c'est vrai. Mais aujourd'hui, les défaillances qu'on voit, aujourd'hui on est capable de produire la nourriture pour toute la planète, il y a quand même des millions de femmes et d'hommes, d'enfants qui meurent de faim aujourd'hui. Alors il y a des défaillances, mais c'est la preuve, ce qui s'est passé en Union soviétique, c'est quand même la preuve qu'on n'est pas condamné à une économie où forcément il y aurait une minorité qui dirigerait à la place de tout le monde et pour tout le monde. On n'est pas condamné à ça. Une autre économie.
Il y a d'autres systèmes.
Il y a d'autres systèmes qui sont possibles, qui sont parfaitement viables et qui seraient d'autant plus viables qu'il y a du progrès, que la société a évolué.
Une dernière question très rapide. Tout à l'heure, vous avez donné votre remède pour lutter contre le chômage. Il est simple, on vous écoute.
Et comment peut-on le combattre? Eh bien déjà, en fermant le robinet. En fermant le robinet de qui fabrique les chômeurs, c'est-à-dire en interdisant effectivement les licenciements et les fermetures de cycles, les fermetures d'usines. Vous vous rendez compte? Depuis que cette crise a éclaté, depuis 3 ans, il y a eu 900 usines qui ont fermé, ça en fait une par jour.
Alors vous avez expliqué que c'était facile pour les filiales de grands groupes, car ça consistait finalement à baisser les profits des grands groupes en les obligeant de laisser ouvert leurs filiales. Qu'est-ce qui se passe pour les dizaines de milliers de petites et moyennes entreprises qui n'ont pas des grands groupes derrière pour les aider à passer, à affronter la tempête?
Oui,
en
mais
20 secondes.
J'insiste absolument sur les grands groupes parce que c'est eux qui sont responsables du chômage. Et les petits, ouais. Moi je suis pour aller prendre effectivement chez les gros. Et vous comprenez les petits artisans et les petits commerçants qui doivent mettre la clé.
Ils doivent se séparer de leur apprenti,
mettre la clé
tout simplement
sur la porte. C'est pourquoi? Parce que justement, ils n'ont plus de clients, parce que les travailleurs qui étaient leur clientèle sont tellement appauvris, ils sont tellement dans la misère qu'ils ne trouvent plus de clients. Vous savez, les tout-petits savent que leur sort il est lié effectivement aux travailleurs et que si le chômage explose, eh bien leurs affaires elles s'effondreront. Donc bien souvent on voit une solidarité qui se crée justement entre les petits, les vrais petits commerçants et artisans, avec les travailleurs contre les licenciements. Donc je suis sûre que cette loi, y compris, elle leur ferait pousser y compris un ouf de soulagement.
Merci Nathalie Arthaud d'avoir été avec nous ce soir. Dans un instant, on se retrouve pour le journal de 19h. À tout de suite.